Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La Turquie veut renvoyer dans leur pays les djihadistes occidentaux qu'elle détient. Les premières expulsions ont commencé aujourd'hui et la France sera bientôt concernée. Les explications d'Anne Andlauer à Istanbul dans un instant. Le chaos s'installe en Bolivie après la démission d'Evo Morales. Les violences se multiplient entre les partisans et les adversaires de l'ex-président. Nous ferons le point avec Alice Campagnol à La Paz. Le blocage politique continue en Espagne. La gauche et la droite restent minoritaires au Parlement après les élections d'hier. Vox, le parti d'extrême droite, fait une percée à plus de 15% des suffrages. Nous analyserons les résultats avec notre invité, l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de la vie politique espagnole. Le président turc Recep Tayyip Erdogan ne rate jamais une occasion de faire pression sur les Occidentaux et notamment sur les Européens. Régulièrement, le maître d'Ankara menace d'ouvrir ses frontières aux migrants qui veulent rejoindre l'Europe, façon pour lui de punir l'Union Européenne, coupable à ses yeux de critiquer l'intervention militaire turque en Syrie. Mais outre les migrants, Erdogan utilise un deuxième moyen de pression, les djihadistes étrangers de l'État islamique détenus en Turquie. Le président turc a décidé de les renvoyer dans leur pays d'origine, même lorsqu'ils ont été déchus de leur nationalité. Les premières expulsions ont commencé aujourd'hui. Anne Andlauer nous appelle d'Istanbul.
Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, la Turquie a commencé par expulser, il n'a pas précisé vers où, un citoyen américain identifié comme combattant terroriste étranger. La confusion règne cependant sur son sort. L'agence de presse turque DHA affirmant que cet Américain a été expulsé via un poste frontière avec la Grèce. Les douanes grecques lui auraient refusé l'entrée, rapporte encore l'agence, qui publie une vidéo de l'homme coincé dans le No Man's Land entre les deux pays. Les autorités turques n'ont fait aucun commentaire sur ces allégations. Un Danois a en revanche été renvoyé par avion vers Copenhague, tandis qu'un Allemand attendait de subir le même sort. 7 autres Allemands doivent par ailleurs être renvoyés jeudi. Tous étaient gardés jusqu'ici dans un des centres de renvoi où les autorités turques détiennent les étrangers interdits de séjour. Ankara annonce aussi le renvoi prochain d'étrangers arrêtés en Syrie. Cela concernerait pour l'instant 2 Irlandais, 2 Allemands et 11 Français. Ces cas sont plus problématiques car la plupart des États européens, dont la France, refusent de rapatrier leurs citoyens qui ont rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Contactés par téléphone, des responsables turcs ont refusé de s'exprimer sur les renvois en cours, précisant simplement que ces procédures allaient se poursuivre, je cite, avec détermination.
Anne Andlauer, correspondante de RFI en Turquie, et France Info donne des précisions ce soir sur ces 11 Français que la Turquie s'apprête à renvoyer en France. Il s'agirait de 4 femmes radicalisées et de leurs 7 enfants. Aucune confirmation officielle pour l'instant de la part des autorités françaises. En Bolivie, la démission d'Evo Morales est en train de précipiter le pays dans le chaos. Les partisans et les adversaires de l'ancien président de gauche s'affrontent dans la rue. Les violences se multiplient. Evo Morales a démissionné hier après avoir été lâché par la police et l'armée. Depuis 3 semaines, l'opposition contestait sa réélection à un 4e mandat en dénonçant une fraude électorale généralisée. Mais son départ n'aura pas suffi à ramener le calme. La correspondance d'Alice Campagnol à La Paz, la capitale bolivienne.
La Paz se réveille sous le choc. Après une nuit de terreur, plus rien ne bouge. Les téléphériques ne circulent plus. Aucune voiture ni aucun passant dans la rue. Dans certains quartiers pourtant, les violences continuent. Dans le sud de la ville, des groupes de partisans du MAS, le parti de gouvernement, armés de bâtons, sèment la panique dans la rue. Ces derniers sont très en colère depuis la démission d'Evo Morales, qui les dirige depuis plus de 13 ans. Le dépôt de bus a été entièrement incendié. Il ne reste rien des véhicules, seulement des carcasses en cendres. Les pros et les anti-Evo Morales s'affrontent depuis plusieurs jours déjà. Des maisons ont été incendiées du côté de l'opposition comme du côté du parti de gouvernement et les deux camps sont prêts à en découdre. Alors que l'ambiance était à la fête hier après-midi pour les manifestants opposés à Evo Morales, le climat s'est rapidement dégradé à la faveur de la vacance du pouvoir. Plus personne en effet ne dirige le pays depuis hier suite à la défection du président, du vice-président et des dirigeants des deux assemblées. Tous les Boliviens réclament désormais une session extraordinaire du Parlement afin de nommer un ou une nouvelle présidente par intérim.
Alice Campagnol depuis La Paz et on apprend ce soir que le Mexique a décidé d'accorder l'asile politique au président démissionnaire bolivien Evo Morales. En Espagne, les quatrièmes élections législatives en 2 ans n'auront pas permis de dégager une majorité claire, ni à gauche ni à droite. Le parti socialiste du chef du gouvernement, Pedro Sanchez, est arrivé en tête avec 120 sièges, mais même en s'alliant avec Podemos, la gauche radicale, le PSOE n'atteint pas la majorité absolue de 176 sièges. À droite, le Parti populaire progresse avec 88 sièges. Les conservateurs sont talonnés par Vox, le parti populiste, qui passe en 6 mois de 24 à 52 sièges avec plus de 15% des suffrages. Mais le troisième parti de droite, Ciudadanos, s'est effondré avec 10 sièges seulement, ce qui rend impossible la constitution d'une majorité de droite. On parle de ces résultats des élections espagnoles avec notre invité, l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de la vie politique espagnole. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît Pellistrandi, ce scrutin espagnol a donc été marqué par le succès de Vox, ce parti classé à l'extrême droite. Alors peut-on dire que Vox n'est finalement que la variante espagnole du populisme européen, à savoir un parti hostile à l'immigration et à l'Union européenne ?
Il est à la fois effectivement cette variante espagnole du populisme européen, et d'ailleurs hier les premiers à féliciter Santiago Abascal, le leader de Vox, ont été Marine Le Pen et Matteo Salvini, donc on voit bien la proximité idéologique, mais il y a quand même une spécificité espagnole, parce que un des facteurs qui a favorisé cette montée en puissance qu'on a observée depuis une quinzaine de jours de Vox, ça a été les crispations mémorielles autour de l'histoire de l'Espagne, et notamment l'exhumation de Franco le 24 octobre dernier. Pedro Sanchez espérait en faire un geste fort pour sa campagne électorale. Ça s'est un peu retourné contre lui, et les sondeurs ont remarqué que de ce jour-là a commencé une ascension fulgurante qui a fait passer les intentions de vote de 10 à 15%, le résultat obtenu hier soir.
Et faut-il en conclure que les responsables de Vox sont les héritiers du franquisme ?
Sans aucun doute, parce qu'ils le revendiquent clairement, à la fois dans leur vocabulaire, dans l'histoire de l'Espagne et la compréhension de l'histoire de l'Espagne qu'ils ont, même si, en termes de génération, ils n'ont plus rien à voir avec le franquisme et que leur parcours politique n'est absolument pas lié au franquisme. Mais on a tout simplement, un socle idéologique qui a constitué une partie de la droite espagnole, ancrée dans un conservatisme à connotation religieuse, parce que le vocabulaire national catholique est présent chez Vox, mais modernisé par la thématique migratoire que l'on voit aujourd'hui pleinement opératoire en Espagne, et par effectivement, et ça c'est vraiment un fait nouveau dans la culture politique espagnole, cet euroscepticisme, alors que l'Espagne était jusque-là euro-enthousiaste.
Benoît Pellistrandi, Vox incontestablement a profité de l'écroulement de Ciudadanos, le parti centriste. Comment peut-on expliquer cette chute brutale, puisque Ciudadanos s'est passé de 15% à moins de 7% en quelques mois ?
C'est la grande leçon du scrutin, c'est la grande surprise. Les sondages avaient anticipé la chute de Ciudadanos, mais ne l'avaient pas prévu à ce point. Le groupe parlementaire de Ciudadanos était au mois d'avril dernier le troisième groupe parlementaire, 57 sièges, et apparaissait un peu comme le faiseur de roi. Albert Rivera avait du coup caressé l'espoir de devenir le parti dominant de la droite. Et il n'avait que 9 sièges de députés en moins que le groupe du Parti populaire. Depuis hier, il en a 78 de moins, puisqu'il n'a plus que 10 députés contre 88 pour le Parti populaire. Et en réalité, ce que les Espagnols ont fait payer à Ciudadanos, c'est un positionnement illisible. D'un côté, le refus absolu de participer au déblocage de la situation politique en envisageant, le cas échéant, une coalition avec les socialistes qui, arithmétiquement, avaient la majorité absolue, et d'un autre côté, une dérive du discours. Ciudadanos est né au centre et toute la campagne électorale, mais c'était sensible dès le mois de mai dernier, s'est fait à droite. Et donc l'électorat modéré qui était au cœur, qui formaient les gros bataillons des électeurs de Ciudadanos, se sont détournés et ont dû se réfugier soit dans l'abstention, soit sont allés renforcer le Parti populaire qui a gagné 700 000 voix entre avril et novembre.
Benoît Pellistrandi, venons-en maintenant au vainqueur du scrutin, les socialistes du PSOE. Quelles sont les options dont dispose finalement Pedro Sanchez pour se maintenir au pouvoir, sachant que la gauche n'est pas majoritaire aujourd'hui en Espagne ?
Elles sont extraordinairement compliquées. Pedro Sanchez souhaitait qu'on revote. Quand le 23 juillet dernier, il s'est soumis au vote d'investiture du Parlement élu au mois d'avril, il savait qu'il serait rejeté parce que Podemos ne l'a pas soutenu. Mais il n'a jamais négocié de façon sincère avec Podemos parce que, avec la configuration qu'il y avait au mois d'avril, 123 sièges pour les socialistes, 49 pour Podemos, il pensait être trop dans les mains de Podemos. Et du coup, comme il avait des sondages extrêmement favorables au mois de septembre, qui lui donnaient jusqu'à 145, 150 sièges, il a cru qu'il sortirait de ces élections grand vainqueur et donc que les partenaires de gauche seraient obligés d'accepter ces conditions. Or, il a perdu des sièges, il n'en a que 120. Certes, Podemos recule aussi et le bloc des gauches se retrouve avec simplement 158 députés au lieu des 166 qu'ils avaient dans le précédent Parlement. Donc, Pedro Sanchez n'est pas en mesure d'exercer sur ses partenaires possibles une contrainte très forte. Il va donc devoir les écouter. Mais en même temps, il n'aura pas les moyens d'arriver à 176. Ou alors, il est obligé d'aller chercher le concours des députés indépendantistes catalans qui, eux, pendant la campagne électorale, ont très clairement fait savoir qu'ils ne soutiendraient pas un gouvernement de Pedro Sanchez. Si bien que le passage à gauche semble vraiment très obstrué, l'alliance avec les indépendantistes, même simplement sous le fait d'une alliance purement conjoncturelle, le temps d'un vote d'investiture paraît très difficile. Donc il reste une dernière hypothèse, c'est la recherche, sinon de la grande coalition, au moins d'une abstention du Parti populaire pour permettre la naissance d'un gouvernement monocolore socialiste et à ce moment-là, effectivement, un déblocage de la situation politique. Mais ce serait un déblocage en trompe-l'œil parce que ce ne serait qu'un déblocage formel. Il y aurait un gouvernement, mais ce gouvernement n'aurait aucune majorité à l'Assemblée et donc le vote de chaque loi et le vote de chaque budget serait un calvaire.
Benoît Pellistrandi, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je renvoie à votre dernier livre, Le Labyrinthe catalan, paru cette année chez Desclée de Brouwer. En Pologne, le 11 novembre est le jour de la fête nationale qui marque l'indépendance retrouvée du pays à la fin de la Première Guerre mondiale. Et depuis 10 ans, les nationalistes défilent ce jour-là dans les rues lors de marches de l'indépendance. Ainsi, à Varsovie, ils étaient 50 000 aujourd'hui selon la mairie, drapeau polonais à la main. Des nationalistes renforcés par les résultats des récentes élections législatives. L'extrême droite fait son retour au Parlement polonais après 12 ans d'absence. Thomas Giraudot a suivi la manifestation de Varsovie.
Au début de la marche, en haut d'un immeuble, des opposants aux nationalistes ont accroché un immense drapeau polonais et dessus la croix gammée nazie et des symboles d'extrême droite barrés de rouge. Pour Adam, dans le cortège, ses opposants se trompent de cible.
On nous reproche d'être des nazis, des fascistes, mais ce n'est pas vrai. On est tolérants. Par contre, je voudrais bien que nos députés nationalistes votent contre l'avortement. Et j'aimerais que les lois soient faites par les Polonais, pas par l'Union européenne.
Beaucoup de nationalistes veulent sortir de l'UE. Un drapeau de l'Union est brûlé lors de la marche. La Confédération, le parti d'extrême droite, défend aussi une Pologne catholique, sans avortement, contre les personnes LGBT. Sur ces sujets, le parti ultra-conservateur au pouvoir a Varsovie, droit et justice ne va pas assez loin pour Barbara, une septuagénaire.
Le programme de la Confédération me plaît. Ils sont jeunes, ils sont patriotes, ils ne veulent pas de l'immigration étrangère ici. Pour moi, le PiS, droit et justice, n'est pas du tout de droite. Il est socialiste, il donne notre argent aux autres. Mes impôts servent à payer des allocations familiales.
Le PiS a mis en place un programme massif d'allocations pour toutes les familles, critiqué par les ultralibéraux et une partie de l'extrême droite.
Thomas Giraudot, correspondant en Pologne. Retour en France avec ce séisme qui a frappé ce matin la région de Montélimar en vallée du Rhône. Une secousse de 5,4 degrés sur l'échelle de Richter, une magnitude rarement atteinte dans notre pays. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement, après la chute d'un échafaudage à Montélimar. Et par ailleurs, les dégâts matériels sont très importants dans la commune d'Uteil, à côté de Montélimar. Par ailleurs, la centrale nucléaire de Cruas en Ardèche va être mise à l'arrêt pour des vérifications complémentaires après le séisme. Mais ce soir, l'autorité de sûreté nucléaire en Rhône-Alpes se veut rassurante. Le temps demain, globalement nuageux et pluvieux, avec de la neige en montagne. En revanche, le soleil devrait s'imposer sur les régions méditerranéennes, sauf sur la Corse où le ciel restera chargé. Les températures minimales seront comprises entre moins 2 dans le centre-est et une dizaine de degrés dans le sud-est. Les maximales iront de 6 à 14 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie.